Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 28, on termine la série de 4 épisodes dédiés à la Bible de Battlestar Galactica, écrite par Ronald D. Moore. Cette fois, on part dans des considérations plus techniques à destination des scénaristes qui ne seraient pas familiers des protocoles militaires. Décollage. On arrive maintenant dans la dernière partie de la Bible de Ronald D. Moore. Celle-ci traite en détail du vaisseau qui donne son nom à la série, à savoir le Battlestar Galactica lui-même. Et oui, vu que l'essentiel de la série se déroule à bord de ce vaisseau, il est assez logique que Moore ait pris le temps de construire un historique et une description très détaillée de ce qui sert de décor principal avec ses protocoles et son fonctionnement. On embarque donc avec lui pour une visite guidée très complète du Battlestar Galactica, et cette fois-ci je n'interviendrai pas au milieu du texte pour le commenter, car je le trouve suffisamment explicite, et puis on va pas se mentir, je suis loin d'être un expert en protocole militaire. Ouvrez les guillemets. Histoire. L'un des 12 premiers Battlestar, le Galactica, a été construit par et représente la planète Caprica. Il a été mis en service 5 ans après le début de la guerre des Cylons et il a été au combat jusqu'à la signature de l'armistice 5 ans plus tard. Il a été l'un des vaisseaux les plus décorés de la flotte coloniale et il a participé à certaines des batailles les plus célèbres de la guerre. Des 12 Battlestar de départ, seul le Galactica et deux autres vaisseaux ont survécu intact à la guerre des Cylons. À la fin des hostilités, le Galactica a servi dans la flotte pendant les 20 années qui ont suivi en tant que l'un des vaisseaux de guerre de première ligne pour défendre la paix. De nouveaux vaisseaux de guerre ont progressivement été construits et le rôle du Galactica a été de moins en moins important dans les exercices de la flotte. Finalement, les deux navires jumeaux du Galactica ont été déclassés et démantelés pour récupérer la ferraille, tandis que le Galactica a été conservé dans la flotte pour des raisons plus cérémonielles que pratiques. C'était un vaisseau célèbre et il était médiatiquement intéressant pour le ministère de la Défense de le garder en service et sur le devant de la scène. Par conséquent, le Galactica a fait beaucoup d'escales dans les 12 colonies et c'était un vaisseau connu du grand public. Néanmoins, le coût et la maintenance nécessaires pour garder le Galactica en service commencèrent à prendre le pas sur les bénéfices médiatiques et durant une série de coupes budgétaires, il fut décidé de déclasser le vaisseau et de le donner en tant que navire musée au département de l'éducation. Opération de combat. Le Galactica est essentiellement un porte-avions qui va dans l'espace. En tant que tel, ses armes principales sont les escadrons de chasseurs qu'il transporte et son seul but est de fournir une base mobile à ses chasseurs pour être le point de départ de leurs opérations. C'est aussi une sorte de cuirassé, c'est-à-dire un vaisseau conçu pour tenir tête à un autre vaisseau ennemi. Comme on a pu le voir dans la bataille finale du pilote, le Galactica a des armes lourdes à sa disposition et est capable d'affronter un Baystar Cylon en combat direct. Néanmoins, ce sont les escadrons de chasseurs à bord du Galactica qui fournissent le véritable punch. Les chasseurs permettent au Galactica d'atteindre des cibles très éloignées de la portée de son propre armement, tandis qu'ils le maintiennent en sécurité en étant hors de portée des armes ennemies. Les vaisseaux spatiaux à bord du Galactica sont rangés par type. Les chasseurs, comme le Viper, ont leurs propres escadrons, tandis que les vaisseaux de reconnaissance ou d'attaque électronique, comme les Raptors, ont leurs propres escadrons. Il y a vraisemblablement d'autres types de vaisseaux qu'on n'a pas encore vus, comme des vaisseaux tanker ou de transport qui ont également leurs propres escadrons. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les escadrons eux-mêmes. Ça veut dire que les chasseurs ne sont pas supérieurs aux tankers ou qu'un pilote de Viper ne va pas prendre de haut un pilote de Raptor. Ils sont tous égaux et ils nécessitent leurs propres spécialités et compétences. Normalement, les pilotes d'un escadron ne pilotent pas de vaisseau d'un type différent. En fait, chaque pilote croit que son type de vaisseau est spécial et probablement meilleur que n'importe quel autre vaisseau. Tous les escadrons à bord du Galactica composent le groupe aérien et le pilote le plus haut gradé est le commandant du groupe aérien ou CGA. En anglais, c'est le CAG car les lettres ne sont pas dans le même ordre. Au sein des escadrons, il y a des chefs d'escadron, des chefs de vol et ensuite des pilotes seniors et leurs ailiers. Le rôle du CAG est de transmettre les ordres d'Adama au groupe aérien. En termes simples, Adama dit au CAG ce qu'il faut faire et le CAG se débrouille pour trouver comment le faire. Si Adama veut envoyer une mission de reconnaissance pour explorer la surface d'une planète, le CAG décide qui vole sur la mission, quelle sera leur trajectoire de vol, combien de temps durera la mission, etc. Ça ne veut pas dire qu'Adama n'a pas un droit de regard sur les détails. Il évaluera et il approuvera tous les plans, mais il devrait décider des objectifs stratégiques et déléguer la planification tactique. Le type et le nombre d'appareils qui seront envoyés pour chaque mission donnée devra être ajusté à l'objectif. Si la cible est proche, envoyer un tanker pour ravitailler l'appareil ne sera pas nécessaire. Une mission d'attaque contre une cible ennemie bien défendue nécessitera des Vipers dont le seul but est de frapper la cible, tandis que d'autres Vipers voleront en escorte pour attaquer les chasseurs ennemis et les Raptors brouilleront les systèmes électroniques ennemis et se comporteront en appareil de première alerte. Une mission de stricte reconnaissance nécessitera davantage de Raptors et seulement 2 Vipers en escorte. Le lancement et la récupération des engins spatiaux sont des opérations extrêmement dangereuses et sont les moments où les accidents mortels hors combat sont les plus probables à bord d'un vaisseau. Un Viper est une grosse machine remplie de carburant hautement combustible, avec des moteurs énormément puissants et il transporte des explosifs. En vol, un Viper est une vraie beauté, capable de faire des pirouettes et de manœuvrer dans l'espace sans ressentir la traînée ou la poussée d'une atmosphère. Mais quand il est piégé dans la gravité artificielle du pont de vol du Galactica, un Viper est un gros morceau de métal lourd, peu commode et encombrant qui doit être manutentionné physiquement pour le mettre à sa place sur le pont et qui doit être réparé sans endommager l'intérieur du Galactica ou blesser n'importe lequel des matelots de pont. Opération de vol. Voici une séquence d'événements typiques pour un Viper en mission de routine qui effectue une patrouille de combat aérien autour du Galactica. L'équipe de pont fait le plein et arme le Viper 289 dans les hangars. Pendant ce temps-là, la pilote, disons que c'est Starbuck, a un briefing de mission dans la salle de préparation des pilotes. Chaque vol a un briefing de mission, il n'existe pas de routine. Starbuck descend dans les hangars et fait une inspection visuelle de son Viper, discute avec le chef qui s'occupe de ce Viper en particulier et passe en revue n'importe quel problème de maintenance. Puis elle grimpe dans le cockpit, le chef et ou le matelot de pont l'aide à s'attacher dans son siège et lui tend son casque. Les matelots manœuvrent ensuite le Viper en direction du tube de lancement. Une fois que le Viper est dans le tube, un klaxon résonne et l'ordre « dégager le tube » est donné. Il signale au matelot qu'il faut qu'il s'en aille et qu'il faut sécuriser les écoutilles. Le Viper est maintenant sous le contrôle de l'officier de lancement qui est situé dans une petite cabine où il supervise le lancement de tout vaisseau spatial quittant le Galactica. Aucun vaisseau spatial ne peut être physiquement lancé sans une action directe de cet officier. En d'autres termes, il ne peut jamais y avoir de moment où le pilote rebelle décide de décoller de son propre chef. L'officier de lancement contacte le CIC, alias la passerelle, pour demander la permission de lancement et quand il l'obtient, l'officier de lancement passe en revue une dernière série de vérifications. Viper 289, Galactica, dégagé devant, NAVCON en vert, intervalle OK, poussée positive et stable, goodbye. Dégager devant signifie qu'il n'y a rien devant le Viper dans le tube de lancement. NAVCON en vert signifie que le système de navigation à bord du Viper fonctionne et s'affiche en vert sur le poste de l'officier de lancement. Intervalle OK signifie qu'il a vérifié l'intervalle entre ce Viper et celui qui a été lancé juste avant. Poussée positive et stable signifie que la poussée moteur du Viper est stable et suffisante pour lancer l'appareil. Goodbye dit au pilote que l'officier de lancement vient juste de presser le bouton qui va littéralement lancer le Viper à travers le tube, puis dans l'espace. Alors que le Viper de Starbuck sort du tube et rugit dans l'espace, elle contacte immédiatement le CIC du Galactica pour se signaler. La directrice de vol du CIC, dans la mini-série pilote c'était l'une des fonctions remplies par le personnage de Douala, va ensuite diriger Starbuck vers sa destination, qui dans ce cas est une patrouille de combat autour du Galactica. La directrice de vol va donner à Starbuck des indications spécifiques sur où aller, à quelle vitesse y aller et que faire lorsqu'elle y arrivera. S'il y a un pilote plus confirmé dans l'espace que Starbuck à sa destination, alors Starbuck devra également obéir aux ordres de ce pilote. Une fois la patrouille terminée, Starbuck devra contacter le Galactica et demander la permission de poser son Viper. Une fois la permission accordée, Starbuck sera dirigé vers le circuit d'atterrissage suivi par tous les appareils qui essaient de se poser à bord du vaisseau. Une fois que son Viper est dans le circuit d'atterrissage, elle est sous les ordres de l'officier de signal d'atterrissage, LSO en anglais pour Landing Signal Officer. Le LSO a une petite cabine, un peu comme celle de l'officier de lancement, et se concentre sur la tâche spécifique de faire atterrir chaque appareil. Alors que Starbuck approche le Galactica, le LSO va donner des instructions telles que « Viper 289, Galactica, approchez la baie d'atterrissage bâbord, à la main, vitesse 1.05, damier rouge, prenez le ballon. » Approcher la baie d'atterrissage bâbord est l'opposé de la baie d'atterrissage tribord. À la main signifie qu'il faut utiliser les contrôles manuels tout du long. Certains Viper avancés avaient un pilote automatique rudimentaire. Vitesse 1.05 dit à Starbuck à quelle vitesse elle doit faire son entrée. Damier rouge fait référence au monte-charge sur lequel elle devrait garer son vaisseau une fois qu'elle l'aura arrêté. On peut supposer qu'il y a plusieurs monte-charges sur le pont d'atterrissage. Prenez le ballon fait référence à un système de lumière externe que le pilote peut voir depuis l'extérieur du Galactica et qui aide Starbuck à se diriger. J'ai le ballon est la réponse standard qui signifie « je peux voir les lumières et je peux piloter mon appareil en toute sécurité à ce stade ». Starbuck guide alors son Viper sur le pont d'atterrissage et l'arrête sur le monte-charge à damier rouge. Le LSO vérifie les contrôles et fait son rapport. « Viper 289, Galactica ». Train déployé, verrouillage magnétique sécurisé, bienvenue à bord, Starbuck. Train déployé signifie que les trains d'atterrissage du Viper sont posés sur le pont. Verrouillage magnétique sécurisé signifie que le verrouillage magnétique a été activé et qu'il maintient physiquement le Viper sur le pont. Le monte-charge amène ensuite le Viper à travers un sas et jusque dans les hangars où les matelots de pont vont ensuite prendre physiquement le contrôle du Viper, sécuriser les armements et débuter la maintenance. Starbuck quitte le cockpit, relate tout problème au chef et se dirige vers la salle de préparation des pilotes pour un débriefing obligatoire et pour recevoir des critiques sur sa technique d'atterrissage. CIC. Toutes les fonctions de commandement sont exécutées depuis le Combat Information Center, alias CIC, le centre nerveux du Galactica qui se trouve au plus profond du vaisseau dans la zone la mieux protégée. Adamat commande toujours le vaisseau depuis le CIC et dans le cadre de nos besoins, le CIC est l'équivalent fonctionnel de la passerelle de Star Trek. Il y a techniquement une véritable passerelle du Galactica quelque part, mais elle est habituellement uniquement utilisée pour la mise à quai ou pour manœuvrer précisément le vaisseau de concert avec un autre vaisseau ou avec un objet qui requiert un contact visuel de la part de l'officier qui dirige la manœuvre. Le CIC est commandé à tout moment par l'officier de garde, un rôle rempli par le lieutenant Gaeta dans le pilote. Les horaires de travail sont appelés des gardes, et chaque garde dure environ 4 heures. L'officier de garde occupe le commandement fonctionnel du vaisseau et est responsable de tout ce qui se passe à bord durant sa garde. À moins que l'officier de garde ne soit relevé de ses fonctions, il n'y a que lui qui puisse donner des ordres pour manœuvrer le vaisseau, lancer des engins spatiaux, mettre l'armement à feu, etc. Les officiers juniors doivent tous remplir les conditions pour devenir officiers de garde dans l'espoir d'avoir de l'avancement dans leur carrière. Et chaque officier à bord du Galactica est attendu pour prendre son tour de garde à un moment ou à un autre, avec l'exception notable d'Adama qui n'a pas de tour de garde formel et qui fait son propre planning comme il le souhaite. Manœuvrer le Galactica. Manœuvrer le vaisseau se fait depuis le CIC, bien qu'il y ait quelques autres stations de manœuvre situées dans d'autres zones du vaisseau. Les ordres sont relayés à la salle des machines en ce qui concerne la vitesse de croisière et au timonier du CIC en ce qui concerne les manœuvres. Diriger le vaisseau est complexe et assez comparable avec le fait de diriger un sous-marin. Il y a une série de propulseurs situés à la proue, au milieu du navire et à la poupe, et les ordres doivent être donnés à des propulseurs spécifiques pour faire tourner le vaisseau. Proue augmentée d'un demi, gauche plein, poupe diminuée d'un demi, droite plein. Avec l'ordre ci-dessus, Adama a dit au timonier chargé de la proue d'activer le propulseur situé sous la proue ou sous le menton du vaisseau à la moitié de sa puissance et d'activer le propulseur du côté gauche de la proue ou la joue à pleine puissance. Dans le même temps, le timonier de poupe va allumer le propulseur au-dessus de la poupe ou des fesses du vaisseau ainsi que le propulseur du côté droit de la poupe sur la fesse droite. Le résultat final de l'ordre d'Adama est de relever le nez du vaisseau, faire descendre l'arrière et commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Notez que cela n'a rien à voir avec la vitesse du vaisseau ou sa direction. Il est juste en train de tourner le vaisseau dans une direction. Ensuite, il arrête de tourner avec un ordre simple « Rencontrez !» Tous les timoniers vont inverser leur commande pour arrêter de tourner. Le Galactica fait maintenant face à une nouvelle direction avec une orientation différente. Si Adama ordonne « Salle des machines, vitesse maximale !» le Galactica va maintenant se diriger vers une nouvelle direction à sa vitesse maximum de sécurité. Limiter les dégâts. La limitation des dégâts, ou DC en anglais pour Damage Control, est la responsabilité de chaque homme et femme à bord du vaisseau. Chaque personne est entraînée et réentraînée à combattre les incendies, à sécuriser les brèches dans la coque, à délivrer les premiers secours, à réparer les dommages, etc. Des groupes de limitation des dégâts sont organisés en division à travers le vaisseau et en cas d'urgence, chaque compartiment a un système organisé pour traiter une urgence dans ce compartiment. Par exemple, alors que la tâche principale des gens de la salle des machines est de travailler sur les moteurs pendant le combat, ils doivent être préparés à s'occuper des dommages dans leur propre compartiment si jamais le besoin se fait sentir. Il y a aussi des groupes itinérants de limitation des dégâts qui sont disponibles pour se déplacer à travers le vaisseau et s'occuper des situations d'urgence. Des officiers de limitation des dégâts sont affectés à travers le vaisseau et, encore une fois, il s'agit d'officiers existants issus d'autres spécialités. Le capitaine Kelly est le LSO, mais il est également officier de limitation des dégâts pendant une urgence. La limitation des dégâts fait son rapport final au commandant en second qui est responsable de la réparation de tout dommage infligé au vaisseau, tandis que l'officier de commandement se concentre sur le combat contre les ennemis. Le commandant en second note tous les dommages avec un crayon gras sur un tableau effaçable dans le CIC parce que c'est simple et parce que ça ne repose sur aucun système d'alimentation qui pourrait avoir été mis KO pendant une attaque. Engagé et officier. Il y a une distinction claire entre le personnel engagé et leurs officiers. On attend des officiers qu'ils soient des leaders, capables de prendre en charge n'importe quelle situation et de toujours s'occuper des hommes et femmes sous leur commandement. Les engagés sont l'épine dorsale du service et ils effectuent tout le travail difficile, du chargement des armements à bord des Vipers au nettoyage des compartiments en passant par le remplissage de la paperasse. Il est strictement contre les règles pour les engagés et les officiers d'avoir une relation amoureuse, tout spécialement au sein d'une même chaîne de commandement. C'est pour s'assurer que les engagés se sentent équitablement traités par leurs officiers pour qu'il n'y ait pas de faveur ou de passe-droit à cause d'un autre type de relation. Par conséquent, la relation entre Tyrol et Sharon va bien au-delà des limites admises et sera un problème récurrent pour les deux. Alors que voler est clairement le rôle principal de n'importe quel pilote ou officier de vol, il reste des officiers et en tant que tels, on attend d'eux qu'ils endossent des responsabilités additionnelles quand ils ne sont pas en vol. Chaque officier junior à bord du Galactica commande une division au sein du vaisseau. Une division est un groupe de personnel engagé qui est commandé par un sous-officier ou un officier peu gradé, typiquement un chef, qui fait ensuite son rapport à un officier de division. Pratiquement parlant, les pilotes et les officiers de vol n'ont pas le temps ou l'énergie de superviser une division en comparaison avec les officiers normaux. Donc, dans les faits, le chef dirige la division, mais il est important de garder à l'esprit que l'officier de division est responsable de tout et n'importe quoi qui pourrait arriver dans sa division. Par exemple, s'il y a un problème de maintenance dans la division de Boomer, si l'un des Vipers est constamment en manque de pièces détachées ou incapable de voler, le CAG tombera sur Boomer, pas sur le chef Tyrol. Plus rapide que la lumière, PRL. La capacité de voyager plus vite que la lumière est évidemment impossible. Donc PRL est un terme un peu inapproprié même dans le monde de Galactica. Techniquement parlant, ni le Galactica ni aucun autre vaisseau capable de PRL ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui se passe durant un saut, c'est que la structure elle-même de l'espace est pliée et le vaisseau voyage directement du point A au point B. Imaginez-vous l'espace comme un morceau de tissu sur une table. Placez une pièce sur la gauche. Pour la déplacer du côté droit du tissu, vous pourriez la faire glisser le long du tissu ou la prendre et la placer là. Et ces deux méthodes impliquent de voyager à travers l'espace physique et prennent du temps. En revanche, si vous attrapez le côté droit du tissu et que vous le pliez pour qu'il touche le côté gauche, la pièce peut être transférée d'un point à l'autre virtuellement instantanément. Voilà fondamentalement ce qui se passe pendant un saut. Le moteur PRL du Galactica plie la structure de l'espace lui-même à travers une autre dimension au-delà de la troisième dimension. Et le vaisseau se transfère littéralement entre deux points distants qui sont momentanément réunis. Par conséquent, le Galactica ne voyage jamais à travers l'univers comme le font l'Enterprise ou le Faucon Millennium. Le Galactica et tous les vaisseaux PRL vont simplement d'un point à un autre et une fois qu'ils sont arrivés, ils peuvent seulement se déplacer à des vitesses normales sous la vitesse de la lumière. Le Galactica est un vaisseau relativement ancien et donc sa technologie est considérablement en retard sur celle de beaucoup d'autres vaisseaux de la flotte hétéroclite, d'où le besoin de compléter de longues checklists par de nombreuses personnes avant chaque saut. Le processus est beaucoup plus simple et rapide à bord du Raptor de Charon, par exemple. Mais même le Raptor doit effectuer des calculs précis et exécuter des réglages précis avant d'initier un saut. La checklist spécifique utilisée par le Galactica pendant la séquence PRL de la mini-série avait été glanée parmi les nombreuses checklists de la mission lunaire Apollo 15. Allez sur http://www.hq.nasa.gov/office/pao/history/ap15fj/. Et regardez sous documents Apollo 15 pour de nombreuses checklists de ce genre. La vitesse de la lumière régit également les communications et l'information des capteurs. Plus un vaisseau est éloigné du Galactica, plus le signal mettra longtemps à voyager. Si le Galactica et l'un de ses chasseurs sont seulement éloignés de la même distance qui sépare la Terre de la planète Mars, disons 700 millions de kilomètres, il y aura un retard de 11 minutes dans la conversation radio. On peut dire la même chose pour les observations optiques, car le temps qu'on repère un Baystar si long, à la même distance, il y a déjà eu 11 minutes pour se rapprocher du Galactica. Les Cylons sont tenus par les mêmes lois de la physique et ils ne peuvent pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, mais ils ont également des sauts. La ligne rouge. Dans la pratique, plus on essaie de sauter loin, plus les calculs sont difficiles et plus il y a de variables à introduire dans les équations. Par exemple, prenez en compte les difficultés inhérentes au fait de sauter vers un système relativement proche qui se trouve à seulement 5 années-lumière. Chaque information que le Galactica peut réunir en regardant par un télescope est par définition vieille de 5 ans. L'étoile est toutes les planètes qui l'entourent ont été en mouvement pendant 5 ans depuis que la lumière qu'on peut voir a quitté ce système. Ça signifie que le Galactica doit calculer le mouvement de tous les corps célestes de ce système en se basant sur les informations qui ont 5 ans. Plus le point de saut est éloigné, plus le problème est grand. Essayez de sauter 100 années-lumière et vous avez un siècle de calcul à effectuer. À cause des limitations inhérentes à la technologie coloniale, leur capacité à calculer toutes les variables impliquées dans un saut est également limitée. La marge d'erreur augmente de façon exponentielle quand ils essaient d'aller plus loin. Et par conséquent, il y a une ligne rouge théorique au-delà de laquelle il n'est pas considéré comme sûr de tenter un saut. À la fin du pilote, le Galactica a intentionnellement sauté au-delà de la ligne rouge et est dans un espace inexploré et inconnu. Voilà, je referme les guillemets sur cette partie très technique, qui n'est pas forcément la plus passionnante de ce document, mais qui contient beaucoup d'indications nécessaires pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose au protocole militaire. Toutes ces indications protocolaires sont donc essentielles pour les scénaristes qui vont travailler sur la série, et on sent bien que Ronald D. Moore profite de ses propres connaissances et de sa propre passion pour la marine de guerre pour mettre en place son univers fortement inspiré de protocoles militaires réels. Voilà qui conclut cette traduction intégrale de la Bible de Battlestar Galactica rédigée par Ronald D. Moore avant même qu'il ne commence à travailler sur la saison 1 de la série. Cette traduction intégrale m'a demandé plusieurs semaines de travail et j'ai fait en sorte de coller au plus près du texte original afin que vous puissiez profiter des véritables intentions du scénariste. Certains passages m'ont donné du fil à retordre, tout particulièrement dans cette émission, car ils contenaient un vocabulaire technique qui m'était inconnu et cela aurait pu aboutir à des contresens si je n'avais pas passé un peu de temps à rechercher les bonnes équivalences en vocabulaire militaire français. Mais c'était sans compter sur le fait que Ronald D. Moore a également inventé quelques termes spécifiques pour l'univers de Battlestar Galactica. J'espère que ça vous a plu. D'autres épisodes Historica sont encore à venir, afin que je vous raconte ce qui s'est passé dans les coulisses de la production de la série avant qu'on attaque les épisodes Analytica consacrés à la saison 2 de Battlestar Galactica. Et pour information, Karine et moi-même serons présents au festival PodRen qui se déroulera à Rennes les 30 et 31 mars 2024, c'est-à-dire le week-end de Pâques. Donc si vous avez envie de discuter, on se retrouve à Rennes. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Draven Hard Rock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao!